Vous écoutez On lit pour vous.
C'est la meilleure place au monde. Un texte de Lila Dussault, paru le 28 septembre 2025 dans La Presse. Les banlieues telles qu'on les connaît sont apparues après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui les ont vues naître achèvent leurs vieux jours. Leurs enfants profitent de leur retraite. À Saint-Bruno de Montarville, ils veulent vieillir au village. Moi, je le dis tout le temps, c'est la meilleure place au monde. Tranche Daniel Vermenlinger. L'infirmière retraitée de 76 ans nous accueille dans son coquet Splitleville de la rue Garneau, où elle réside depuis plus de 40 ans. Elle fait partie des premiers enfants de cette ville de la rive sud de Montréal, telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 1945, son père revient du vieux continent, marié à une Anglaise. Le couple qui vit à Verdun, à Montréal, veut s'installer à la campagne. Les anciens combattants recevaient un petit montant d'argent du gouvernement fédéral pour s'acheter une maison. Rappel, Madame Vermenlinger. Au même moment, des milliers de maisons de vétérans se construisent à toute vitesse partout au pays pour accueillir les soldats revenus du front. Les banlieues nord-américaines naissent ainsi, dans une grande vague d'accès à la propriété et d'envol de la classe moyenne. Avec les contre-coups qu'on connaît sur la perte de milieux agricoles et l'étalement urbain. La septuagénaire voit donc le jour quand les routes sont encore en terre à Saint-Bruno. Dans la vingtaine, elle part pour s'installer à Montréal. Je suis partie parce que c'était plate. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien, raconte-t-elle sur sa terrasse avec vue sur un jardin où Rudbeckia et Aimé Rocal se côtoient. 8 ans plus tard, mariée, elle revient s'installer dans sa ville natale. Elle ne pouvait s'imaginer vivre nulle part ailleurs. L'air y est simplement meilleur, affirme-t-elle. Puis les restaurants et cinémas ont suivi. C'est bien ici qu'elle compte finir ses jours. Vendre ou ne pas vendre? Si les banlieues ont été construites pour les jeunes familles, elles se transforment désormais pour accueillir des aînés. Certains choisissent de vendre leur maison pour aller en condo, comme Alessandro, croisé à la place du village. Sa femme et lui ont laissé leur maison à leur fille pour vivre dans plus petit. La famille vit à Saint-Bruno depuis 46 ans. Jamais je ne retournerai à Montréal. Notre vie est ici. Notre fille est ici aussi, lance-t-il. À un jet de pierre, sur un banc, Fernande Brisson, Ginette Belletête et Paulette Jeté, âgées respectivement de 80, 73 et 84 ans, n'imaginent pas quitter leur demeure. Chaque jour, elles se retrouvent pour marcher, magasiner et potiner. « Tant qu'on va être en forme, on va rester là », lance Fernande. « Tant que les maris vont être là aussi », renchérit Ginette. « Ici, il y a beaucoup de services et il y a les petits-enfants. Il faut bien que ça serve », ajoute Paulette au milieu des éclats de rire. Vieillir est aisé quand on connaît ses voisins, racontait un peu plus tôt Madame Vermenlinger. Sa propre mère a quitté sa grande maison de Verchères à 94 ans. En banlieue, tes voisins prennent vraiment soin de toi, décrit-elle. En 2024, quand mon mari a passé 15 jours aux soins intensifs en plein hiver, j'arrivais ici le soir à minuit. « Et mon trottoir était déblayé », lance-t-elle en exemple. Bâtir la banlieue. Le cœur de Saint-Bruno de Montarville bat doucement lors de notre passage mi-août. Citadins et étudiants se détendent sur les terrasses des cafés et restaurants, profitant de l'été. Autour de la fontaine de la place du village, on lit, on jase, on scrolle. Et les têtes blanches sont majoritaires, remarque-t-on. Ici, tous les services, épicerie, pharmacie, banque, sont accessibles à pied, explique Bertrand Lalancette, directeur général de la résidence pour aînés Manoir Saint-Bruno, situé de l'autre côté de la rue. Ça en fait un cadre idéal pour les personnes âgées, qui ont besoin à la fois de sécurité et d'autonomie, estime-t-il. La problématique présentement, c'est que dans les banlieues, les résidences sont construites de plus en plus sur le bord des autoroutes, des centres d'achat, et ça vient tuer l'esprit de construire dans un milieu de vie, déplore-t-il. Au manoir Saint-Bruno, au contraire, les gens retrouvent souvent leurs voisins ou leurs amis, détaille M. Lalancette. C'est le cas de l'un des bâtisseurs de la ville, Pierre Dulude, 95 ans. Son arrivée à la résidence l'a fait renouer avec plusieurs. M. Dulude nous accueille dans son petit meublé impeccable. Au mur, des images du village d'autrefois, quand chevaux et trains étaient les seules façons de se rendre à Montréal. La famille Dulude est bien connue à Saint-Bruno. Le frère et le père de M. Dulude ont été maires pendant des décennies. Lui-même a commencé comme agriculteur, bien contre son gré, avant de se lancer dans des entreprises de gravier et de pierre concassée. Il a été aux premières loges pour voir le développement quasi inimaginable de sa ville. De 1951 à 1981, le petit village de 1816 habitants est devenu une ville de 22 880 habitants. Depuis, la hausse s'est stabilisée, 26 735 habitants en 2025. On m'a dit qu'on a déjà construit jusqu'à 400 maisons par année, se souvient M. Dulude. Ça prenait beaucoup de pierres pour faire les routes, et chaque maison en avait besoin pour le plancher de la cave. Au crépuscule de sa vie, M. Dulude estime que sa ville s'est développée en beauté. Il est satisfait de son existence, à une exception près. Il aimerait que sa femme soit à ses côtés pour voir un autre automne colorer le Mont-Saint-Bruno. Parole d'expert. Les banlieues sont traversées de plusieurs tendances urbanistiques. L'une des plus importantes, leur vieillissement. Gérard Baudet, professeur émérite à l'Université de Montréal. Dans les années 1980, on avait annoncé en grande pompe le retour en ville. Mais les banlieusards ont vieilli, ont vendu leurs maisons et ils sont restés en banlieue. Le nombre de résidences privées pour aînés qui ont été construites est assez fascinant. Et les promoteurs ont compris que les gens vieillissants veulent des condos. Frédéric Mercure-Joliette, chercheur postdoctoral à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, spécialisé dans l'histoire urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis une trentaine d'années, on peut voir de jeunes retraités qui vendent leurs maisons pavillonnaires, les maisons de banlieue, pour acheter un condo, pour vivre leur retraite dans un logement un peu moins difficile sur le plan de l'entretien. En savoir plus, source Statistique Canada. 23 % proportion de la population de 65 ans et plus à Saint-Bruno-de-Montarville en 2021. C'était « C'est la meilleure place au monde », un texte de Lila Dussault, paru le 28 septembre 2025 dans La Presse.
Nous ne serons jamais des machines, et c'est tant mieux. Un texte de Elisabeth Massicoli, paru le 6 du 10e mois 2025 dans Elle Québec. Chaque mois, la journaliste et autrice Elisabeth Massicoli scrute le chaos du web et s'arrête net sur un sujet qui la fait tiquer, rire ou grincer des dents. Ces temps-ci, malgré tous mes efforts, il semble que je ne puisse échapper à l'IA, l'intelligence artificielle, cette drôle de bibitte qui n'a d'intelligent que le nom. J'ai beau ajouter AI à mes recherches Google pour m'éviter les résumés d'IA bâclés ou pesés sur « je ne suis pas intéressé » chaque fois qu'une vidéo générée par l'IA franchement étrange apparaît sur mon fil Instagram. Des chats animés qui donnent naissance, des fruits en verre qu'on coupe au couteau japonais, des bébés qui enregistrent des podcasts. L'IA me ruine quotidiennement le moral. Les larges langages modèles, comme ChatGPT, c'est ce qu'ils sont, pas des intelligences, mais bien des outils de prédiction de textes qui volent le contenu d'artistes, d'autrices, de chercheuses et chercheurs pour le remâcher et en vomir une version insipide et souvent erronée, me trouble profondément. Pour ne pas dire qu'il m'empêche de dormir la nuit. Je ne suis pas toute seule à angoisser en ligne plusieurs appels au boycott, voire à des actions en justice. C'est que l'IA incarne tout ce que j'aborde. Il s'agit d'un outil qui a été créé par les ultra-riches en exploitant, sans rémunération ni permission, le dur labeur des plus pauvres, question de s'en mettre plein les poches. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi que ces picsous modernes, assis sur leur montagne d'or entassée dans leur bunker, souhaitent au final remplacer le capital humain dans la chaîne ultra-capitaliste de laquelle ils sont maîtres. Question de garder les travailleuses et les travailleurs appauvris, asservis et dépendants d'une technologie qui ne fait que les heurter. Tout en continuant à faire plus d'argent, toujours plus d'argent, évidemment. Selon un rapport du Forum économique mondial réalisé cette année, 41% des employeurs dans le monde ont l'intention de réduire leurs effectifs au cours des 5 prochaines années en raison de l'automatisation par l'IA. Il y a de quoi se caler une camomille ou deux ou trois avant dodo. C'est sans compter que l'IA gruge activement les maigres ressources d'une planète en feu. Pour fonctionner, l'IA a besoin d'énormément d'eau, d'énergie et de métal dont l'extraction est hyper polluante, contribue au déclin cognitif de ses utilisateurs, voire met en danger leur santé mentale, et à la détérioration de l'environnement de communautés déjà défavorisées, et met à mal une démocratie déjà boiteuse en ne nous permettant plus de croire à ce qu'on a vu de nos yeux vu sur nos écrans, de démêler le vrai du faux. Récemment, une amie me disait « Je suis d'accord avec toi, c'est effrayant, mais dans le monde corporatif, si on n'utilise pas l'IA, on se retrouve vite à la traîne. Depuis l'avènement de ChatGPT, on nous demande de faire toujours plus vite. C'est un cercle vicieux. » Et c'est bien ça le problème. On nous a fait miroiter, autrefois, que l'IA nous aiderait à automatiser certaines tâches débilitantes ou fastidieuses, question de nous laisser plus de temps pour créer, apprendre, jouer et vivre. Mais c'est tout le contraire. On nous demande de travailler davantage et plus rapidement, sans penser, sans peaufiner. « Ah ouais, let's go, dig it in, passe ça dans ChatGPT. » On nous demande de continuellement nous démener pour compétitionner avec l'efficacité de machines. La peur d'être remplacé par des robots qui planent au-dessus de notre bureau de télétravail, comme une épée de Damoclès sortie tout droit d'un épisode de Black Mirror. Et ce ne sont pas que les grandes corporations et les entreprises à l'éthique douteuse qui capitalisent sur notre peur et notre citron, toujours plus pressé, et notre paresse, soyons honnêtes. Il y a peu de temps, une collègue journaliste me confiait « Je faisais de la rédaction corporative pour une organisation qui soutient les artistes. » Les artistes. Je devais réaliser des entrevues avec des membres de la communauté artistique qui ont profité des services de l'organisme, l'idée étant de motiver les gens à faire un don. La directrice m'a dit de ne plus avoir besoin de mes services. Ils avaient décidé de générer de faux témoignages sur ChatGPT au lieu de s'entretenir avec des artistes, des humains. On n'est pas sorti du bois. J'aimerais bien que les compagnies qui prennent des décisions du genre vivent dans l'opprobre, qu'on les fasse sentir cheap, 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 parce que c'est ce qu'elles sont. Refuser, au possible, d'entrer dans le cycle infernal de l'IA est épeurant, j'en conviens. Il faut avoir le courage de nager à contre-courant. Tout le monde le fait. On peut rapidement se sentir dépassé si on décide de ne pas utiliser l'IA au quotidien ou si on tente de le faire moins et plus consciencieusement. Mais c'est, à mon avis, l'unique issue, l'unique façon de ne pas collectivement foncer droit dans le mur. Ça, et continuer de s'informer sur l'IA, sur son fonctionnement, ses limites, ses conséquences, et demander à nos dirigeants de réguler et d'encadrer son utilisation et ses avancées. L'IA sera certainement inévitable dans les années à venir et arrivera à nous trouver avec ses vidéos de chats dérangeantes, quoi que l'on fasse. Mais on peut tout de même déjà décider d'utiliser nos méninges comme on le faisait si bien il y a peu de temps, plutôt qu'une machine à voler des idées qui se trompe, qui ment, qui se gave comme un ogre qui ramollit nos renonnes à vitesse grand V. Chaque fois qu'on utilise ChatGPT pour écrire un courriel qu'on est amplement capable de rédiger nous-mêmes, ou pour générer des images de nous façon Studio Ghibli, écrire nos vœux de mariage ou faire nos listes d'épicerie. On nourrit la bête. On participe à accélérer le rythme insoutenable auquel on nous demande déjà de travailler. On heurte notre cerveau et notre environnement. Et surtout, on enrichit ces milliardaires technofascistes qui souhaitent à tout prix nous garder prisonnières et prisonniers d'un système qui est en train de nous mener à notre perte. Face aux défis qui nous attendent au cours des prochaines décennies, climatiques, politiques et tutti quanti, s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas perdre, c'est notre intelligence, notre adaptabilité et notre imagination. On en aura bien besoin pour repenser un monde meilleur, où idéalement les robots laveraient nos chaussettes pendant qu'on écrirait une œuvre épique ou qu'on se gorgerait de figues au soleil au bord d'un étang. C'était « Nous ne serons jamais des machines, et c'est tant mieux ». Un texte de Elisabeth Massicoli, paru le 6 du 10e mois 2025 dans Elle Québec.
Le niveau de scolarité a un impact majeur sur la santé des gens, montre une étude. Un texte de Catherine Desautels, publié le 13 novembre 2025 dans La Voix de l'Est. Le niveau de scolarité a une influence majeure sur la santé des gens, met en lumière un nouveau rapport de recherche dévoilé jeudi par l'Observatoire québécois des inégalités. Moins il y aura de décrochage scolaire au Québec, plus la population est sujette à avoir une meilleure santé. Autrement dit, le rôle de l'éducation agit comme un déterminant de la santé. En améliorant le système d'éducation québécois, on donnerait du même souffle un coup de main au réseau de la santé. Le rapport indique que les personnes ayant un faible niveau de scolarité sont plus souvent touchées par des maladies chroniques et des troubles psychologiques. Elles vivent aussi, en moyenne, moins longtemps que celles qui ont poursuivi des études plus longues. C'est clair qu'il y a davantage de maladies chroniques, de morbidité, de dépression avec un faible niveau de scolarité, et même que la démence arrive plus vite aussi parce qu'un faible niveau de scolarité implique tout un enchaînement de conditions de vie plus difficiles. Et donc, ces gens qui ont décroché, à l'école, qui n'auront pas de job, vont avoir des enfants qui vont aller à l'école avec un capital culturel, socio-économique très faible. Donc, eux, ils vont faire partie de ceux qui ne sont pas sur le même pied d'égalité, explique François Fournier, chercheur à l'Observatoire et auteur de l'étude. En 2020-2021, au Québec, 21,8% des élèves issus de milieux défavorisés quittaient l'école sans diplôme ni qualification, comparativement à une moyenne de 15%, tous profils confondus. Évidemment, la maladie frappe toutes les classes sociales, mais le facteur de l'éducation expose les personnes avec le moins de scolarité à plus de problèmes de santé. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions à tout ça, mais grosso modo, les données sont très claires. Le taux d'emploi sans diplôme d'études secondaires, c'est environ 40%. Avec un cégep, c'est 66%. Avec un baccalauréat, c'est 73%. Le revenu moyen après impôts, aucun diplôme, 31 000 $. Cégep, 45 000 $. Diplôme universitaire, 62 000 $. Les deux tiers des prestataires des programmes d'assistance sociale étaient sans diplôme en 2024, détaille M. Fournier. Tout ça pour dire que ça, c'est une première dimension sur laquelle on voulait attirer l'attention, parce que ça veut dire que l'éducation est un enjeu de santé publique, dans la mesure où si ton système d'éducation ne produit pas ou a de la difficulté à produire un fort pourcentage de taux de réussite, il y a des problèmes. Il y a des gens qui tombent à travers les mailles du filet social, souligne le chercheur. C'était « Le niveau de scolarité a un impact majeur sur la santé des gens », montre une étude. Un texte de Catherine Desautels, publié le 13 novembre 2025 dans La Voix de l'Est.
Moins de président Trump, plus de démocratie ici. Un texte d'Alain Reyes, paru le 9 octobre 2025 dans La Presse. Lorsque Véronique Yvon a publié un message dernièrement, il a trouvé un écho bien au-delà des réseaux sociaux. Elle a écrit sur X « Suis-je la seule à ressentir un malaise de plus en plus grand face à la couverture quasi en continu de l'actualité américaine, y compris souvent totalement de l'ordre de la politique intérieure? Serions-nous devenus le 51e État de notre propre gré? De toute évidence, quelque chose m'échappe. » Cette interrogation traduit une inquiétude grandissante et un ressentiment de plus en plus présent dans l'opinion publique. L'impression que Donald Trump occupe une place démesurée dans notre espace médiatique. Oui, les États-Unis comptent. Soyons clairs, ignorer les États-Unis serait irresponsable. Ils demeurent notre principal partenaire commercial, notre allié stratégique et la première puissance mondiale. Leurs décisions en matière de politique étrangère, de conflits armés, d'environnement ou de droits de douane ont des répercussions concrètes chez nous comme partout sur la planète. On n'a qu'à penser aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, à l'annulation de politiques environnementales ou encore aux négociations commerciales qui redessinent l'économie mondiale. Le problème n'est donc pas de couvrir les États-Unis, mais plutôt la place qu'on accorde au président du pays, parce que la tarte médiatique, elle, ne s'agrandit pas. Chaque minute consacrée aux frasques de Trump est une minute de moins pour parler de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos communautés autochtones ou de nos propres enjeux, choix et débats démocratiques. Selon Influence Communication, Donald Trump a représenté 10,6% de la couverture médiatique au Québec, soit beaucoup plus que n'importe qui. Ce chiffre est vertigineux quand on réalise que notre premier ministre fédéral, Mark Carney, ne franchit même pas la barre des 2 %. Du spectacle américain à nos enjeux. Lorsque j'étais député fédéral pendant le premier mandat de Donald Trump, j'ai souvent été questionné par les journalistes et analystes politiques sur ce que je pensais du président américain, et ma réponse était toujours la même. Mon opinion sur lui importe peu, car je n'ai aucune influence sur ses décisions et son avenir. Ça appartient à la population américaine. Ce qui compte, c'est ce que notre premier ministre en pense et ce que lui et son gouvernement proposent comme action pour appuyer les Canadiens. Et sur cela, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Sommes-nous entrés dans son jeu? Ne devrions-nous pas arrêter de commenter tout ce que fait Trump et tourner les projecteurs vers nos propres élus afin de mieux comprendre comment ils réagissent et quelles orientations politiques ils prennent pour aider la population, nos organismes ainsi que nos entreprises? Vers un meilleur équilibre, trois pistes de réflexion. 1. Questionner et recentrer. Quand une nouvelle américaine est relayée ici, demandons-nous collectivement qu'est-ce que cela change pour nous. 2. Mieux prioriser. Sans nier l'importance des États-Unis, veillons à ce que nos enjeux locaux ne soient pas systématiquement relégués au second plan. Moins de présidents américains dans nos médias, c'est plus de démocratie municipale, québécoise et canadienne, dans nos conversations. 3. Trouver des angles locaux. Transformer chaque actualité américaine en occasion d'interpeller nos responsables politiques sur leurs choix et leurs réactions afin d'alimenter un débat démocratique bien à nous. Reprendre notre démocratie. Moins de présidents américains, ce n'est pas moins d'informations, c'est un meilleur équilibre. C'est affirmer que notre démocratie mérite autant d'attention que celle d'un voisin, aussi puissant soit-il. En soulevant la question, Véronique Yvon nous invite à un exercice salutaire. Redonner à nos débats, à nos élus et à nos priorités la place qu'ils méritent. La vraie question est simple. Voulons-nous être spectateurs des États-Unis ou acteurs de notre avenir démocratique ici, chez nous? La politique américaine peut nous influencer, mais elle ne doit jamais nous définir. C'est ici, dans nos municipalités, au Québec et au Canada, que se décide notre avenir. C'était « Moins de président Trump, plus de démocratie ici ». Un texte d'Alain Reyes, paru le 9 octobre 2025 dans la presse.